Avec cette question toujours dans l'actualité, comment le petit Émile a pu disparaître le 8 juillet dernier dans le hameau du Auvernais? Sa famille, des voisins, des témoins se sont réunis aujourd'hui pour une mise en situation près de 9 mois après sa disparition. On va tout de suite aller retrouver Anne-Sophie Varmont. Vous êtes notre journaliste au Auvernais. Racontez-nous ce qui s'est passé. Ce sont donc 17 personnes qui ont été convoquées pour reconstituer le moment où le petit garçon a disparu. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Hein. Et parmi ces 17 personnes, il y avait notamment des membres de la famille d'Émile, par exemple ses grands-parents, car ils étaient chargés de garder le petit garçon le jour de sa disparition. Il y avait aussi les parents d'Émile qui étaient là. Et puis au niveau des témoins, il y en avait deux principaux. Il y avait tout d'abord un témoin qui a vu Émile vers 16h30 descendre vers le lavoir de la commune. Ensuite, il y en a un autre qui cette fois a vu Émile vers 16h45, alors dans une autre direction, puisque à ce moment-là, le petit garçon serait en train de remonter vers le domicile de ses grands-parents. Alors, pendant cette mise en situation, à chaque fois, les différents protagonistes ont raconté cette journée de la disparition d'Émile, leurs faits et gestes, tout ce qu'il s'est passé. Et durant, en fait, ces récits, ils ont été filmés par les enquêteurs, sous le regard également des magistrats instructeurs. Et maintenant, il va falloir confronter ces différentes vidéos de cette journée, de cette mise en situation, avec les éléments matériels déjà retrouvés par les enquêteurs sur le terrain. Et c'est en fait à l'issue de ces confrontations entre les vidéos de cette mise en situation et des éléments matériels, des premiers indices, que l'on saura si cette mise en situation, elle a permis de faire avancer ou non cette enquête.
Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont avec Adrien Fache. Donc je vais rebondir sur ce qu'elle disait là, Laurent Valdiguier, il y a donc des vidéos qui ont été prises aujourd'hui de cette mise en situation et c'est ces éléments-là qu'on va maintenant analyser, c'est ça?
Oui, ça a duré 10 heures, ils étaient 17 dans un huis clos judiciaire et les gendarmes ont tout filmé avec un drone. Les gendarmes, ils ont des analystes de sciences du comportement. Donc c'est vrai que dans ce huis clos, ils ont gardé les traces de tout. Il cherchait à savoir un peu l'itinéraire d'Émile. Est-ce qu'il est allé vers la fontaine? Est-ce qu'il est allé vers la forêt? Ou au fond, les deux? Est-ce qu'il est d'abord allé vers la fontaine, vers le lavoir, puis reparti vers la forêt? Est-ce qu'au finalement, il serait pas rentré chez ses grands-parents?
Comment ils s'y sont pris, pardon? Donc il y a 17 personnes qui ont été convoquées, chacun dans son rôle, qu'on replace à la position qu'ils occupaient au moment de la disparition.
C'est un mouchoir de poche. C'est la maison, c'est un hameau, il y a quelques maisons, il y a la maison des grands-parents, d'où il sort. On ne sait pas trop à quelle heure en réalité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis tout le monde en place pour essayer de donner un timing à ce qui a pu se passer, ce qui a été vu. Entre le premier voisin qui le voit descendre vers le lavoir, le deuxième qui le voit monter, et puis pour essayer de donner une cohérence à tout ça, ils ont mis chacun... chez lui, enfin à l'endroit où il était, pour essayer de voir entre-temps ce qu'il a fait, comment il a bougé, est-ce qu'il est allé dans sa cuisine, est-ce qu'il est allé bricoler à l'intérieur de sa maison, combien de temps ça a pris, pour voir un petit peu, on ne sait pas, hein, si ça se passe tout ça en un quart d'heure, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps, ou si ça se passe tout ça en une heure et demie, puisque si le premier témoin l'a vu, il était 16h30, et que l'alerte a été donnée à 18h12, ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup plus de temps que ce que nous, on a pu croire pendant 6 mois. Autrement dit que les périmètres...
Oui, alors premier témoin 16h30, deuxième témoin 16h45, vers 17h15, les grands-parents disent s'être aperçus de la disparition et préviennent la gendarmerie aux alentours de 18h. Donc vous dites le laps de temps est finalement... 18h12 précisément. Vous dites finalement le laps de temps est plus grand qu'on imaginait.
On a longtemps cru qu'il quittait le domicile de ses grands-parents à 17h. Et qu'en un quart d'heure, à 17h15, ils avaient donné l'alerte. Autrement dit, ils s'étaient inquiétés. Autrement dit que les deux témoins, on les avait positionnés entre 17h et 17h15. Et puis là, apparemment, c'est plus long, puisque le premier témoin daterait sa vision à 16h30. Alors peut-être qu'entre-temps, parce qu'on ne fait que raisonner sur une enquête qui est totalement secrète et hermétique par les gendarmes. Mais c'est vrai que les gendarmes, ils ont aussi les téléphones des uns et des autres pour essayer de dater ça, de voir à quel moment il y a peut-être eu un coup de fil dans cet intervalle et tout ça. C'est ça qu'ils ont mis qu'ils ont décortiqué, comme on épluche une orange, et tranche par tranche, pendant 10 heures aujourd'hui, avec les 17 personnes qui étaient là, autant ou si ce n'est plus de gendarmes, de juges, dans une espèce de huis clos qui devait être aussi bourré d'émotions, puisque c'est vrai qu'il a tout le temps été question du petit Émile, 2 ans et demi, dont on est sans nouvelles.
Et on parle encore, on le rappelle, c'est un petit hameau, un huis clos, un cul-de-sac, une 20aine d'habitants tout au plus. Est-ce que quelqu'un, question peut-être un peu naïve, mais est-ce que quelqu'un a joué le rôle de, entre guillemets, le rôle d'Émile ?
Non. Il y avait pas de petit garçon. On a peut-être demandé à un gendarme, à un enquêteur, de se déplacer, faire un trajet, reprendre un trajet, celui des témoins qui disent il est allé vers la cabane, un autre non, il est descendu vers le lavoir, mais personne, il y avait pas de petit Émile, hein, il y avait juste des témoins. En fait, pendant toute la journée, le village a été un échiquier et on a reposé les pions à la place qu'ils disent avoir occupée ce jour-là. Et ce qui est intéressant, ce que vient de dire Laurent, c'est passionnant parce qu'en fait, on a un laps de temps entre le moment où on constate la disparition et qui varie de 45 minutes à 1h27. Soit on l'a vu à 16h30, 16h45, soit on l'a vu à 17h, 17h15. La seule chose dont on est sûr, c'est que les gendarmes sont appelés par la grand-mère à 18h12 et quand on remonte dans le temps, ils se réveillent à 17h de ce qui nous est présenté comme une longue sieste. Émile se réveille à 17h, 18h12, donc... il y a, à ce moment-là, 45 minutes qui peuvent varier et pendant lesquelles il a pu se passer tout un tas de choses parce que ce petit bomba, il n'a pas fait 25 kilomètres autour du village. Il est resté ici. Donc, il s'est passé quelque chose à l'intérieur du village. Ce qui va être intéressant, c'est de remettre en perspective les positions physiques des uns et des autres avec des témoignages et des auditions qui ont déjà été prises. Qui vont être versés dans ce fameux logiciel Anacrim, qui lui va dire ça c'est pas cohérent, quand monsieur X dit qu'il était à tel endroit à telle heure c'est pas possible parce que celui-ci dit qu'il l'a vu à tel endroit à telle heure, ça permettra peut-être aussi à des personnes qui se souviennent plus très bien à 15-20 minutes près, est-ce qu'on sait où on était hier à 15-20 minutes près?
Oui, c'est compliqué.
On sait, voilà, c'est difficile. Donc peut-être que le témoignage d'un autre qui va dire moi j'ai regardé ma montre à cette heure précise, je me souviens parce que voilà, permettra aussi de remettre en perspective des déclarations de quelqu'un qui était inexact. Vous voyez, tout ça c'est important. On va remettre tout ça. Alors, il y a Anacrim qui va bosser, donc le logiciel. Et puis il y a aussi les enquêteurs de la SR de Marseille qui vont travailler avec les juges. Et dans quelques temps, on reviendra peut-être voir une de ces 17 personnes ou plusieurs pour leur dire. On est embarrassé parce que ce que vous nous dites ne correspond pas à la réalité.
Et on reviendra sur ce logiciel, notamment, qui leur est utile dans cette enquête. Randall Schwerdorfer, cette procédure, cette mise en situation, c'est une procédure qui est rare dans ce genre d'affaires ?
Alors, dans une affaire criminelle, je dirais que c'est quasiment la règle. On a quasiment systématiquement des reconstitutions et c'est toujours même.
Mais reconstitution, pas mise en situation.
Pas des mises en situation.
Non, je m'explique. J'ai bien compris. J'ai bien compris.
Mais s'il vous plaît.
Non, mais je ne viens pas de me réveiller. J'ai bien compris. Je dis, il est très habituel qu'on ait des reconstitutions. Or, des mises en situation, ça, c'est très exceptionnel. Pourquoi ? Parce que d'abord, pour l'instant, on n'a pas d'éléments concernant la disparition d'Émile. Je m'explique. On ne sait même pas s'il est mort. S'il est mort, on ne sait même pas où il est mort. Donc, on a une inconnue qui est très importante. Et je prends beaucoup de précautions parce que j'ai entendu aussi ce que disent les parents du petit Émile, qui espèrent qu'il est vivant, les grands-parents aussi. Et personne ne sait rien en l'état. Et je n'ose pas trop m'avancer. Bon, dans une enquête criminelle, une mise en situation, c'est très, très exceptionnel. Parce qu'on va travailler exclusivement sur quelque chose qui n'a rien de criminel. Vous étiez où ? Vous avez fait quoi ? À quelle heure vous avez commencé à faire le repas ? Je me suis servi un thé, j'ai été dans mon fauteuil, vous avez regardé quoi à la télévision ? Vous vous êtes déplacé où ? Après, j'ai été chez le voisin. Vérifier, effectivement, la téléphonie est très compliquée parce que la géolocalisation précise n'existe pas. Je ne peux pas savoir si Julie se trouve exactement sur ce plateau ou si elle n'est pas au 5e étage, par exemple, des locaux de BFM, ou si vous n'êtes pas à 2 kilomètres de ces locaux-là.
Ah, c'est pas précis à ce point.
Non, c'est pas précis à ce point. En général, surtout avec les réseaux qu'il y a, notamment en montagne, ça peut être plusieurs kilomètres d'ailleurs parfois, de géolocalisation. Les trackers des voitures vont être naturellement vérifiés, parce que ça c'est beaucoup plus précis par contre. Et donc c'est très exceptionnel. Après, il y a une deuxième chose, et il ne faut pas être naïf, c'est que les deux juges d'instruction, les enquêteurs qui sont des professionnels, d'abord on ne filme pas tout ça par hasard. On filme tout ça, pourquoi ? Parce que... ça doit rappeler à Dominique l'affaire Jonathan Daval quand on filmait l'enterrement d'Alexia, parce que les enquêteurs vont ensuite analyser les comportements. Parce que comme on n'a pas d'éléments, comme on n'a pas de corps, comme on ne sait rien sur la disparition d'Émile, je préfère parler de disparition, on va essayer de voir si les gens ont un comportement, pardonnez-moi cette expression, normal ou anormal. C'est très subjectif. Mais on est obligé d'être un peu subjectif. Et on va travailler, on en parlait avec Pablo tout à l'heure, avec ce que faisaient les enquêteurs il y a encore 200 ans, avec le flair de l'enquêteur. C'est-à-dire que forcément, les enquêteurs vont suspecter plus ou moins certaines personnes d'être impliquées. Par contre, n'oubliez pas une chose, hein, c'est extrêmement délicat, parce qu'on ne place pas en garde à vue n'importe qui, n'importe comment dans ce type d'affaires. Surtout si c'est intrafamilial. Il ne faut pas se tromper. Vous imaginez dans l'affaire Daval les précautions qui ont été prises.
Je rappelle parce que vous êtes toujours l'avocat de Jonathan Daval.
Placer le mari, par exemple, d'Alexia en garde à vue, si au bout de la garde à vue, il s'avérait que ce n'était pas lui, c'est cataclysmique. Parce que non seulement vous avez quelqu'un qui souffre, qui est victime, ensuite qui est pointé du doigt, et puis après on se rend compte que ce n'est pas lui, on fait très très
donc
attention.
Donc ils prennent beaucoup,
on
beaucoup
prend
de pincettes.
Temps, ouais. On prend beaucoup de regarde. Pincettes et on tape,
Dominique.
C'est le mot, quand on est sûr.
Regardez mettre le résultat dans l'affaire Grégory. On a placé en détention la mère de Grégory.
Catastrophe. Catastrophique.
Et on en parle dans un instant. On en reparle juste après une très courte pause. À tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. On parle toujours de cette mise en situation dans l'affaire du petit Émile. 17 personnes qui ont été convoquées aujourd'hui par la justice pour reconstituer le moment où le petit garçon de 2 ans et demi a disparu, a été aperçu pour la dernière fois. C'était en juillet dernier. On va revenir sur cette journée chargée en émotions dans ce petit hameau du Haut-Vernay avec le récit de Émeline Darcourt.
Une à une, les voitures repartent du village du Haut-Vernay. Toute la journée, et à l'abri des regards, dans un village totalement bouclé, les enquêteurs ont tenté de se rapprocher du déroulement du 8 juillet 2023, lorsque le petit Émile a disparu. 17 personnes avaient été convoquées par la justice pour cette étape de l'enquête.
On a aperçu effectivement la famille passer, notamment sur le sens de la redescente vers 19h. On a vu également l'avocate des grands-parents. Ce qu'il faut y rajouter, c'est qu'il pleuvait des cordes, mais littéralement des cordes ce matin, qu'il a même neigé dans l'après-midi. On a emmené les 17 personnes pendant 10 heures sur le terrain, donc ça a dû être très éprouvant pour la famille et pour tous ces gens-là.
200 gendarmes pour sécuriser et limiter les accès au Haut-Vernay, 2 juges d'instruction, une vingtaine d'enquêteurs pour recueillir des éléments susceptibles de faire avancer l'enquête.
Le but, c'est de redérouler chronologiquement les événements qui se sont passés durant l'espace-temps de la disparition du petit Émile et de revoir si les éléments peuvent être confirmés ou infirmés.
Dans la commune, des habitants ont hâte d'un dénouement de cette affaire.
Les gens du village, comme l'ensemble des Français, mais en particulier les gens du village, puisque ça s'est passé quand même chez nous, on veut savoir ce qui s'est passé. Donc tout ce qui va dans le sens de trouver la vérité, pour nous, c'est un fort espoir.
Les éléments éventuellement recueillis dans cette mise en situation ne seront pas rendus publics avant plusieurs semaines.
Il faut s'imaginer, Laurent Valdiguier, ce petit hameau d'une vingtaine d'habitants, un cul-de-sac, on n'y va jamais par hasard, sous la pluie, sous la neige, où on essaye de reconstituer donc ce qui s'est passé il y a maintenant 9 mois lors de la disparition du petit Émile.
Oui, ça avait un petit côté lugubre hein, quand on voit les images aujourd'hui où il a neigé, il a plu. Et puis, c'est ce que disait le colonel de gendarmerie, chronologiquement, donc dans quel ordre les choses se sont passées, les fameux 2 témoins, dans quel ordre ça a eu lieu. Et puis, dans quel espace-temps? Il a utilisé l'expression l'espace-temps. C'est-à-dire, dans combien de temps ça a pris tout ça? Et puis, pour essayer de situer au mieux à quel moment Émile a quitté, seul vraisemblablement, la maison de ses grands-parents, pour être vu par ses 2 témoins extérieurs à la famille. Est-ce que ça s'est passé à 17h ou est-ce que ça s'est passé, comme semble le dire un des 2 témoins, le premier, à 16h30? Si ça s'est passé à 16h30, la famille dit, depuis le début, qu'à partir de 17h15, elle s'est inquiétée de ne plus voir Émile. On sait que le grand-père, il a 10 enfants. Donc en fait, je ne sais pas combien ils étaient, les enfants de la maman. Marie, la maman d'Émile, elle n'était pas là. Mais elle a 9 frères et sœurs. Il y avait un nombre, ils étaient nombreux dans la maison, dans le jardin, et ils étaient en train de charger des piquets pour aller faire une clôture pour les chevaux. À 17h15, ils s'inquiètent. Où est Émile? Et entre 17h15... et 18h12, comme disait Dominique, le moment où ils appellent la gendarmerie, ils cherchent. Mais on ne sait pas si le début du mystère commence à 16h30, comme semble le dire, c'est ça l'espace-temps, comme semble du gendarme, comme semble le dire le premier témoin. Donc s'il faut situer, voilà, entre 16h30 et 17h et 18h12, tout le moment où Émile a disparu sans que les gendarmes arrivent, enfin sans que les gendarmes soient prévenus, ou si tout ça se passe dans un espace-temps plus court, entre 17h et 17h15. Ça, on ne le sait pas.
Et ça change quoi concrètement alors?
Ça change beaucoup de choses. Parce que pendant ces trois quarts d'heure de différence, il a pu se passer plein de choses et il faut savoir ce qu'il s'est passé pendant ces 45 minutes de différence. Est-ce que vous êtes sûr que vous étiez là à cette heure-ci? Si vous êtes sûr que vous étiez là à peu près à cette heure-ci, où étaient les autres? Qu'est-ce qui a pu se passer pendant ces 45 minutes? Est-ce que quelqu'un a eu le temps de prendre Émile, de l'emmener quelque part? C'est très important.
On sent pour les enquêteurs, c'est un cas de figure évoqué des professionnels de l'investigation, c'est infernal. Ça s'est passé là, il s'est passé quelque chose sous les yeux, mais on ne voit pas quoi. Il n'y a pas eu d'hélicoptère, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de... Voilà. Donc on sait que c'est un périmètre donné, et que dans le laps de temps où ça s'est passé, l'enfant s'est volatilisé à cet endroit-là. Pour les enquêteurs scientifiques, c'est pas possible, il y a un truc qui nous manque.
Que dans certaines affaires judiciaires, ça a changé la donne complètement. Dans l'affaire Dils, Patrick Dils, 17 ans, va être condamné pour les meurtres de deux enfants. Il y a d'abord des témoins qui disent, on regardait la télé à cette heure-ci, et donc ça colle pas parce que Patrick Dils, il peut pas être en train de chercher dans la poubelle des timbres, il collectionnait les timbres. Et puis ensuite, ces gens-là vont revenir sur leur témoignage parce qu'il y a un enquêteur de la police qui va leur dire « Vous êtes vraiment sûr ?» Il dira « Ben non, on n'est plus vraiment sûr. » Ça va tellement tout changer que là, Patrick Dils, il entre dans la possible, dans le possible des suspects et il va être condamné et il va faire de la prison pour les meurtres de deux enfants qu'il n'avait pas commis, c'était Francis Hall.
Vous voyez comment c'est important de procédure.
Moi, je parle de 20 minutes sur l'affaire Dils.
Et vous voyez en l'air, toi.